Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
T'was early in the spring when I set out to go to work up in the woods in North Ontario. The unemployment office said they'd send me through with a little Abitibi and the survey crew. And those black flies, the little black flies, always a black fly no matter where you go. I'll die with the black fly picking my bones in North Ontario, I-O, in North Ontario. Toby was the captain of the crew. He said, I'm gonna tell you boys.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale slasher. On débutera l'émission avec Dr. Rictus, un slasher de 1992 signé Manny Cotto, un slasher publié dans la collection Slash Edition par ESC Edition. Toujours chez ESC Edition, nous aborderons ensuite le Halloween de Rob Zombie, le Director's Cut. On va ensuite aller plus loin dans le temps et parler d'un film de 2022 qui s'appelle Sweetie, You Won't Believe It. Un film tout droit venu du Kazakhstan signé Yernar Nourgaliyev, qui était disponible dans la collection Extra Monde chez Extra Lucid Film, qui est désormais visible sur Shadows. Et puis, on parlera d'un slasher très très original qui s'appelle In a Violent Nature, un film de 2024 de Chris Nash qui est disponible, qui sort dans une très belle édition chez ESC Édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie Timothée Tricard pour son aide sur cette émission. Pour causer slasher, nous sommes accompagnés à distance de notre ami Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma et enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
Également présent dans ce studio, Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oubliée, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube, homme à l'origine du plus long lancement de l'histoire de la radio. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Johan, salut Jérôme, mais bien évidemment, salut à toutes.
Well, now the work is over, Black Toby says we're through with a little Abitibi and the survey crew. 'Twas a wonderful experience, but this I know, I'll never go again to North Ontario with those black flies, a little black flies, always a black fly no matter where you go. I'll die with the black fly picking my bones.
Nous allons partir dans le passé en 1993, alors pour la sortie française, parce que je crois que c'était sorti en 92 aux États-Unis, pour aborder un film, nouvel opus de la collection Slash Edition qui paraît chez ESC, un film qui s'appelle Dr. Rictus dans sa version française, Dr. Jiggles dans sa version US, un film signé Manny Cotto. Alors Manny Cotto, c'est un Américain d'origine cubaine qui est mort en 2023 à 62 ans. et qui a surtout une carrière de producteur. Il a quasiment rien réalisé. Il a produit, entre autres, les nouvelles moutures d'Au-delà du réel. Il a produit Star Trek Enterprise. Il a produit Dexter, du temps où c'était encore une bonne série. C'est étonnamment donc, qu'on va accueillir son film, puisque c'est un réalisateur, en fin de compte, quasi méconnu du grand public. Hein, et un film qui avait eu... un grand prix, un prix du jury au festival d'Avoriaz en 93, présidé par Christopher Lee, qui s'y connaît un petit peu en fantastique, Christopher Lee. Et ce film, c'est quoi? Ben, c'est un slasher qui arrive à une époque où on fait plus beaucoup de slasher, hein, qui vient un peu après la bataille. Et l'histoire est toute simple, hein. Y a un certain Mr. Randall qui s'évade d'un asile et qui retourne dans sa ville natale pour venger son défunt père qui était docteur, je ne dis pas beaucoup plus. Et bien sûr, il va se retrouver à traquer des gentils adolescents, hein, qui, eux, ne pensent qu'à forniquer, bien évidemment, comme tous les adolescents. Et à partir de là, ça va se lâcher.
Alors moi, je dis cœur sur ce film que je n'avais jamais vu, en fait. Et ce fut une belle surprise, hein, ce docteur Rectus, qui est en fait un slasher, mais un slasher qui, je trouve, est bien au-dessus du panier, et avec beaucoup d'idées au niveau du scénario et de la mise en scène, notamment ce personnage de docteur Jiggles, qui en fait tue avec un certain humour. Il renouvelle un peu la figure du tueur en série, qui tue avec un certain humour, avec une certaine ironie, comme s'il allait prescrire des traitements, mais en fait des traitements qui sont plutôt fatals. Et il y a aussi quelque chose que... Alors le film est très bien tenu, je trouve qu'il y a un bon rythme, c'est vraiment bien foutu, les personnages ils sont bien écrits. Et il y a cette actrice que j'aime bien, la Holly Marie Combs, qui s'est fait connaître par la série Charmed. Et il y a aussi quelque chose qu'on a attribué... En revoyant ce film, je ne sais pas si on en a parlé à l'époque, hein, je n'ai pas vraiment suivi l'actualité de ce film-là quand il était sorti. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on avait attribué à Scream le fait que les victimes du tueur se défendaient et lui ont monté plein la tête. Et là, non, quand je regarde Dr. Rectus, c'est plutôt dans ce film-là où les victimes ne se laissent pas faire. Et le fameux Dr. Rectus, le tueur, donc, lui, il s'en prend aussi plein la tête. Et je trouve que c'est une belle idée et qui est mieux exploitée même que dans le premier Scream, je trouve. Où le tueur s'en prend plein la tête aussi. Il y a des scènes qui sont vraiment bien, notamment avec un médecin. Et les personnages, ils ont de l'épaisseur, quoi. C'est pas de simples victimes qui sont là juste à se faire trucider. C'est vraiment une belle surprise. Je regrette de ne pas l'avoir vu à l'époque en salle. C'est une belle découverte.
Et bien Thomas, je l'avais vu en salle. Tu sais que j'aime bien ce film. Je t'en avais parlé d'ailleurs. J'étais très content qu'il ressorte chez ESC. En plus, le DVD n'était pas tip-top au niveau de la qualité de l'image. Là, c'est vraiment une belle copie. Alors oui, ce film, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit. Il a plein de qualités. Et puis c'est vrai que ce Dr. Rictus, il est marrant parce que... Alors Larry Drake, c'est un acteur... qu'on avait pu voir aussi en méchant très très sadique dans Darkman de Sam Raimi, où il collectionnait les doigts de ses victimes qu'il coupait avec un coupe-cigare. C'est ces deux rôles marquants en fait. Et c'était aussi le Benet dans La Nuit de l'Épouvantail de Franck de Felita, dont on a parlé dans une précédente émission. Et il s'éclate. On sent que l'acteur se fend la poire. Parce que les meurtres sont très originaux et rigolos. Au début, c'est pas très gore, mais après, ça devient vraiment dégueu. Hein. Il y a vraiment des meurtres assez dégoûtants. Pas spécialement très sanglants, mais très, très dégoûtants. Et puis, c'est une bonne idée parce que c'est à la fois... Alors bien sûr, le début, ça rend un peu hommage au Halloween de John Carpenter. Après, il y a la petite ville, on peut penser à Haddonfield aussi, mais c'est pas grave. En fait, ça tout passe très bien. Il y a le petit côté maison hantée, il y a tout ça, mais il y a tout cet aspect aussi. Il y a un peu le côté savant fou. C'est un personnage un peu multiple qui incarne plusieurs mythes du fantastique. Et moi, j'adore ce film aussi pour une scène qui est une scène de rupture dans un palais des glaces. Enfin, de post-rupture dans un palais des glaces qui devient une des séquences les plus inventives en termes de mise en scène qu'on ait pu voir dans un slasher.
Il y a la scène d'ouverture que je trouve très étrange, qui me fait beaucoup penser à la scène onirique qui clôt Pulsion de Brian De Palma. Alors moi, je me dis que c'est un clin d'œil ou un hommage. Parce que la scène est très étrange. Je me dis, mais c'est un cauchemar. Mais non, c'est même pas un cauchemar. C'est vraiment la réalité. Et je trouve que le film, déjà, il part sur une bonne note complètement folle, quoi.
Mais Je suis vivant d'Aldolado aussi. Il y a des scènes qui peuvent évoquer ça aussi.
Déjà, l'introduction, elle est très très cool avec justement ce moment où on s'échappe de l'asile. Mais le film, il commence avant tout sur une vue 3D où on a l'intérieur d'un corps humain avec du sang. Et dès le début, le film nous dit qu'il va tenter des trucs et qu'il va essayer de nous en mettre un peu plein les yeux. Ce qui est intéressant avec Larida qui fait ce docteur extrêmement angoissant, c'est que comme tu l'as dit, il a joué Darkman, qui est une tentative d'adaptation de The Shadow de Sam Raimi. Et en fait, quand on regarde la fin de sa carrière, elle a passé la fin de sa carrière à faire du doublage chez DC, notamment dans Batman la relève, le film, dans Green Lantern le complot. Et ce qui est intéressant, c'est que de base le projet de Dr. Icky, c'est l'adaptation d'un comics de Dark Horses, qui à une époque était le troisième plus gros éditeur de comics, qui a eu beaucoup de licences, notamment il avait les licences Alien, Predator, il avait la licence The Mask qui sortira plus tard en film. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Manny Coto va se retrouver sur le projet, il va modifier. Mais pour moi, il y a des trucs qui ont gardé ce côté un peu comique. C'est-à-dire que si on regarde les couleurs, en grande partie, elles sont assez vives, assez flashy pour une plupart, qui donnent un petit côté pulp. Il y a un travail de la lumière qui est très cool. Il y a une scène où on a deux ados qui sont enfermés dans une maison. Ils sont dans une pièce extrêmement sombre. Et en fait, il fait tellement sombre que même s'ils sont au milieu de la pièce, on n'arrive pas à voir où s'arrêtent les murs, où ça commence. Et à plusieurs moments, on peut s'attendre à le voir surgir de l'obscurité pour commettre ses crimes. Le film est très cool parce que par plusieurs plans, il a un peu ce truc qui rappelle les séries d'anthologie d'horreur, qui est très sympathique. Et si je me trompe pas, je crois que Manny Coto justement a fait des réalisations qui sont liées à ces anthologies d'horreur de cette époque. Et surtout, on a le personnage du docteur Rictus qui est très particulier. Alors déjà de base, quand il arrive, on pense que c'est un véritable médecin et on comprend avec le temps que c'est pas du tout le cas. Il a ce truc qui lui donne son nom de souvent rire lorsqu'il fait ses massacres, et à travers des flashbacks on comprend pourquoi. Et il a un tout petit côté oedipien, dans le sens où il est arrivé un truc à sa mère et on ne sait pas si ça va le pousser à essayer de réparer l'erreur que sa mère a vécue, ou si justement ça va juste être une obsession supplémentaire pour commettre ses meurtres. Il y a un dernier détail que je trouve très drôle, qui est un moment où il y a des enfants qui jouent à un jeu vidéo, il est juste derrière et le jeu vidéo auquel il joue, c'est Dr. Mario.
Irrécupérable, dit-il d'ailleurs, parce que l'enfant est tellement concentré sur son jeu vidéo qu'il ne voit même pas qu'il y a des meurtres qui se perpétuent dans sa maison. Non, mais le film est comme ça tout du long. C'est même très drôle. C'est très drôle. Alors, le personnage, en plus, d'Holly Marie Combs, qui a atteint d'une maladie cardiaque et tout, fait écho à résonance avec le personnage du docteur Rictus. Enfin, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt malin. C'est très, très bien mis en scène. Plastiquement, c'est très joli. Il y a des scènes très marrantes, comme ce détournement de la scène de Plumard en vue subjective où le garçon s'avance, il y a la caméra qui va sous les draps. Et là, non, c'est pas sa belle Dulcinée qui apparaît, c'est le docteur Rictus. Voilà, c'est très très drôle. Et je terminerai quand même en disant qu'il y a une scène quand même assez dantesque lors d'un flashback. Si vous avez déjà vu un enfant sortir du ventre d'un cadavre, ne regardez pas ce film, mais si vous voulez voir un enfant sortir du corps d'un cadavre, regardez ce film, parce que ça, vous ne l'avez jamais vu dans un autre film. Donc, pour une scène assez bluffante, quand même. Nous venons, mon cher Johan, de dire tout le bien qu'on pensait de ce Dr. Rictus, qui est quand même une très bonne surprise, ce sort de slasher tardif qui n'a pas rencontré le succès qu'il aurait mérité. Quel est ton point de vue, toi, sur ce film de Manny Coto ?
Alors, je trouve que c'est un film assez sympathique, ça fonctionne bien. Après, il est très classique, au sens où il reprend tous les marqueurs, on va dire, des slashers, la maison abandonnée, la fête foraine, la high school, les adolescents en furie, etc. Les policiers un peu dépassés. Bon là, ce qui change, c'est qu'il y a un policier qui porte un secret, comme souvent d'ailleurs, et puis un autre qui n'est pas de la communauté, et donc qui va chercher à comprendre. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi le travail sur l'image. Je trouve les flashbacks en sépia, là, c'est quand même pas mal. C'est une idée intéressante, et surtout que ça apporte un élément de distanciation, et ça permet de casser un peu l'action, tout en la nourrissant et en expliquant un peu les ressorts de ce docteur Rictus, chez qui je ne vous conseille pas de consulter.
Et donc, si vous souhaitez quand même, malgré les conseils avisés de Johan, consulter le docteur Rictus, docteur Jiggles dans la VO, je vous conseille de vous procurer cette très belle édition, cette slash édition, donc disponible chez ESC, du film de Manny Coto. vous écoutez Culture Prohibée. Mon cher Johan, quand on a préparé cette émission, parce qu'il ne faut pas croire, chers auditrices et auditeurs, ces émissions, on les prépare, eh bien, tu nous as parlé, tu as éveillé notre curiosité, tu nous as parlé d'un film kazakh, disponible dans la collection Extramonde, enfin là, qu'on trouve encore sur le net, mais je crois que n'est plus disponible sur le site de l'éditeur, qui s'appelle donc Extra Lucide Film, cet éditeur que l'on aime beaucoup. Un petit coucou à Karine et à Patrice. Tu voulais nous parler d'un film de Yernar Nourgaliyev qui s'appelle Sweetie, You Won't Believe It, un film de 2022 qui s'amuse et malmène quelque peu, entre autres, les codes du slasher.
Alors, tout à fait. Bon, c'est un film kazakh, on ne voit pas souvent. Malheureusement, même si j'ai appris qu'il existait un festival du film kazakhstanais sur Paris, mais qui doit être à sa première édition ou à sa deuxième édition, ça, il faudrait vérifier. Donc, c'est un peu un objet étrange, déjà, en soi, un film kazakh, un cinéma qui était totalement occulté à l'époque soviétique jusqu'en 91, hein, puisque tout était mélangé dans la même production, parce que c'était des productions soviétiques, et donc qui renaît depuis quelques années. Alors, malheureusement, c'est très, très, très mal distribué en France, parce que ce réalisateur-là, Yernar Nourgaliyev, hein, il a déjà apparemment 28 titres avant de faire ceci en 2020, hein, Sweetie, You Won't Believe It. Donc en fait, on a affaire à un vrai réalisateur et qui a sorti il y a 2 ans Kill Me, mais que je n'ai pas vu et qu'on n'arrive pas d'ailleurs à trouver en France sur des supports physiques. Ça, c'est un gros problème parce que là, je pense qu'on a un très, très grand réalisateur. Alors, comme tu disais, c'est en fait une revisite totale du slasher, mais c'est aussi un dynamitage complet de la comédie et également des films, on va dire, des survival, hein, parce qu'on trouve un couple de rednecks absolument délirant. Et le tout, qui s'inscrit dans 3 copains qui partent à la pêche, parce qu'en fait, il y a l'acteur principal, c'est Dania Alchinov, qui pète un peu les plombs avec sa femme qui est enceinte et qui a des envies, des désirs, des besoins, etc. Et lui, il veut plutôt aller prendre du bon temps avec ses 2 potes. Et ils partent à la pêche, et alors là, je ne veux pas spoiler, mais ils rencontrent tout le monde, enfin toutes les personnes qu'il ne faut jamais rencontrer lors d'une partie de pêche, même ailleurs. Hein, puis ils rencontrent des mafieux en rupture de banc qui vont se débarrasser de quelqu'un. Le chien d'une personne est tué, et il apprécie, il aimait beaucoup son chien, et donc il va poursuivre toutes les personnes qu'il va croiser, etc. Plus le couple de redneck. Donc c'est un film totalement barré. C'est-à-dire que il casse tout, il va toujours beaucoup plus loin qu'on ne le croit, et en fait, à partir du moment où on commence à comprendre comment il fonctionne, eh bien, il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la scène finale avec le tueur sur le cheval, enfin, c'est absolument hallucinant, on se dit, il ne va pas faire ça, mais si, il le fait quand même. Bref, il n'a aucune limite, aucun cadre, il aime beaucoup le cinéma, par contre, on voit qu'il y a plein de petites références à des très très grands films occidentaux, mais en même temps, il filme de manière très très classique, hein. Il n'y a pas d'effets particuliers, c'est des gros plans, parfois des plans séquences, etc. C'est vraiment très traditionnel, la manière de filmer, mais sincèrement, il y avait vraiment très très longtemps où je n'avais pas rigolé devant un film, du moins à ce point, et c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde.
Et c'est un film qui effectivement s'éclate bien avec les codes du slasher, surtout par rapport à cette personne qui venge son chien, qui a une sorte de revisite du personnage de Michael Myers, en fait, sans masque, hein, mais qui est une sorte de tueur invincible, qui est presque une incarnation du mal. On est quasiment dans le film de super-héros, sauf que ce serait un super-vilain, puisqu'il est, on est dans le domaine de l'indestructible, là, quand même.
Ah oui, tout à fait, parce que même à la fin, bon, évidemment, on pense qu'il est mort, mais non, il n'est pas mort. C'est... Et puis il a ce côté aussi, c'est pas un méchant en fait, parce que parfois il tue pas tout de suite, alors on se demande pourquoi, parce que c'est pas précisé, parce qu'il est assez mutique dans le film, mais il ne tue pas tout de suite, hein. Et donc il tue d'abord les personnes qui ont tué son chien bien évidemment, puis après il en épargne d'autres, quitte à revenir après sur elles. Et c'est aussi un comique de situation, ce film. Enfin, ce film mobilise vraiment plein de scènes avec des comiques de situation. Moi, je pense au type qui arrive toujours en retard et qui s'évanouit dès qu'il y a du sang. Donc, en fait, il est totalement... Enfin, il ne sert à rien, à part un relief comique, parce qu'il n'apporte rien à l'intrigue. Mais à chaque fois, on attend de le voir arriver pour qu'il s'évanouisse. Et non, c'est effectivement, il y a plein de belles choses. Et... Il y a aussi le fait que, bon, tu parlais d'un hommage, bien sûr, à Mike Myers, mais aussi l'hommage, je pense, au film de Renneck, Sans retour de Walter Hill n'est pas un film de Renneck, hein, stricto sensu. On pense à Deliverance, par exemple, à tous ceux qui l'ont suivi. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a un hommage, et surtout que ça reprend aussi un des codes du slasher, la station-service. Là, je trouve qu'on s'attend à tout sauf à ça, en fait, parce que bon, il se passe rien, mais il se passe quand même des choses au début. Et je trouve qu'il arrive à... Enfin, c'est quelqu'un qui aime le cinéma et qui connaît le cinéma, puisque je ne sais pas ce que tu en penses, hein, toi, Jérôme, mais il arrive, en fait, à détourner tous les éléments, on va dire, topiques du slasher pour se les approprier et nous proposer autre chose.
Ah, moi, je pense que c'est un film qui brasse... En fait, c'est un film kazakh, mais très... Alors, peut-être qu'on retrouve... à la fin, une certaine morale, c'est-à-dire qu'à la fin, on retourne vers l'ordre familial, tout ça. Enfin, voilà, il y a de ça aussi dans le film. Mais je trouve que c'est un film, effectivement, qui connaît son sujet. C'est-à-dire qu'on sent que ce réalisateur... Alors déjà, techniquement, parce que c'est quand même assez beau, la photographie est plutôt belle. Le film est très naturaliste aussi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il est filmé dans des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il y a, effectivement, une grande connaissance des codes du survival, tu l'as dit toi-même, du polar, du slasher, de l'humour. Par exemple, bon, ces gens qui tiennent cette station-service, évidemment, ça évoque aussi Massacre à la tronçonneuse, hein, puisque c'est une station-service où on peut, voilà, qui, dans lequel on peut acheter tout ce qui existe quasiment, et dans lequel vit, on va dire un homme et une femme particuliers. On n'en dira pas plus. Il faut voir le film. Mais il y a la manière d'amener ces deux personnages, par exemple, est assez drôle parce que nos trois hurluberlus, là, ils sont à la station-service et puis ils font des allers-retours, ils reviennent tous terrorisés de la boutique, mais on ne sait pas qui est dans la boutique, en fait. Et quand on découvre qui est dans la boutique, on est plutôt mort de rire, on se dit, mais pourquoi sont-ils terrorisés? Et on va découvrir après qu'ils avaient de bonnes raisons d'être terrorisés. Et le film, il joue comme ça tout le long des codes qu'il connaît très bien. C'est évident que ce metteur en scène connaît très bien les codes du film, on va dire, à l'américaine, à l'anglo-saxonne. D'ailleurs, je suis même étonné parce que quand on connaît la propension des Américains à débaucher des cinéastes de partout pour après leur faire un travail de yes man, en quelque sorte, je suis même étonné qu'ils ne soient pas allés le chercher parce que ce réalisateur, ce Yernar Nourgaliyev, c'est quand même une découverte d'un point de vue technique, c'est quand même un metteur en scène. C'est pas du tout, en fait, on va vous dire, film kazakhstanais, vous allez vous dire, bon, ben voilà, ça va être un film un peu original, un peu fauché, un peu... Pas du tout. C'est un film qui envoie, c'est un film en plus qui a cette sorte d'énergie, je trouve, qu'on retrouvait un peu dans le cinéma asiatique des années 90. C'est un film très énergique, qui se passe tout le temps quelque chose. Et puis, il y a aussi un trio de gangsters qui est absolument hilarant. Tu en parlais un peu avec l'un des protagonistes qui ne supporte pas la vue du sang. Mais c'est quand même un trio de bras cassés dont, là, c'est pareil, un des membres du trio qui est lui aussi bien, bien résistant à la douleur. Voilà, j'en dirai pas plus.
Ah non, tout à fait. Moi, je pense que c'est un très, très grand réalisateur et j'espère que le succès de ce DVD ou du Blu-ray amènera donc des sociétés à diffuser son œuvre en France parce que sincèrement, il le mérite.
Ça s'appelle Sweetie, You Won't Believe It. C'est un film de 2022 de Yernar Nourgaliyev et il est disponible chez Extra Lucid Film dans la collection Extra Monde. Écoutez Culture Prohibée spécial slasher. Petit bond dans le temps, maintenant on va se tourner vers Rob Zombie. On est en 2007. Et Rob Zombie, donc là, qui est honoré d'un superbe coffret par ESC, un coffret incroyable, avec une version intégrale, hein, le Director's Cut de son Halloween, en UHD 4K, un coffret de dingue, blindé de bonus, dont un incroyable making-of, un Halloween très particulier, parce que c'est un Halloween qui va se concentrer énormément sur l'enfance de Michael Myers. C'est d'ailleurs ce que les fans hardcore vont reprocher un peu au film, puisqu'il enlève sa part de mystère au personnage de Michael Myers. C'est un choix qui peut s'expliquer si on voit le reste de la filmo de Rob Zombie. On rappelle que Rob Zombie, il a été élevé dans l'univers du cirque. Hein, donc son Captain Spaulding, tout ça, c'est pas innocent. Et puis quand on sait ce que représentent les cirques aux États-Unis, avec tout le côté, cabinet de curiosité, tout ça, ça explique beaucoup de choses, à la fois de l'univers musical du musicien Rob Zombie et de son univers filmique. Et Rob Zombie, quand il fait ce film-là, à l'époque, il sort de deux films qui ont mis une claque aux fans d'horreur. Puisqu'il sort de La Maison des Mille Morts, qui est intéressant, mais surtout The Devil's Reject, qui pour moi est le grand film d'horreur des années 2000, produit aux USA, tant il est une radiographie en même temps de l'état des États-Unis, jusque dans l'hystérie et la violence. Et c'est donc c'est ce même Rob Zombie que sont allés chercher la bande à Weinstein et Miramax pour produire les Halloween. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, le film va être remonté, le film va faire peur. Parce que d'abord, il s'écarte du modèle, vraiment. Il choisit de gommer l'aspect fantastique du personnage, d'en faire vraiment un personnage horrifique. Et dans le director's cut, là, on voit clairement que, en plus, la partie sur l'enfance est beaucoup plus longue. Elle fait la moitié du métrage, en fait, avant de muer en slasher dans sa deuxième partie. Donc il y a une heure de slasher, mais une heure de l'enfance de Myers. Bon, où il y a de l'horreur aussi. Hein. Voilà, ça rigole pas beaucoup. C'est sauvage, c'est brutal. C'est un croisement entre le style des propres clips de Rob Zombie. C'est très clairement beaucoup plus inspiré du Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper que du Halloween de John Carpenter. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le Halloween de John Carpenter. Et ce qui frappe dans cette illustration, dans cette vision du personnage de Michael Myers, c'est le côté rugueux, avec une totale absence d'empathie pour les personnages, qui est assez terrible à vivre. Les meurtres mélangent sexe et violence, mais jamais rien d'érotisant, mais quelque chose de très très effrayant. On est dans quelque chose de très dur, de très âpre. Et on est, je vous disais tout à l'heure, hein, ces obsessions peuvent paraître étranges parfois. Et pourtant... il vient d'une famille de circassiens, donc c'est vraiment des obsessions, parce que par moments, ça flirte avec le grotesque, ça flirte avec l'outrance. Il y a toujours des gens qui sont dans le milieu du spectacle. Là, la mère de Michael Myers est stripteaseuse. Mais le film est vraiment sans pitié pour ses spectateurs et pour ses personnages. C'est un film très, très dur. C'est une expérience. Hein. Et là, il a une niaque d'enfer. Moi, je me... malgré ses défauts, hein, parce que le film n'est pas sans défaut, mais j'aime beaucoup ce Halloween de Rob Zombie. Et après ces deux Halloween, pour moi, il ne retrouvera plus vraiment la niaque, si ce n'est le temps de The Lords of Salem, qui est vraiment un film très singulier, que j'aime beaucoup, mais plutôt dans le sens où il mélange des univers comme celui du Velvet Underground avec l'esthétique du métal et tout ça. Bon, moi, ça me parle, voilà. Et puis un très bon film d'animation, par contre, The Haunted World of Super Bisto, qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste, un peu à voir, mais là, par contre, qui est beaucoup plus fun. Pour moi, Damien, c'est la grande période de Rob Zombie, et ces deux films-là, enfin, en tout cas le premier là, qu'on peut voir chez ESC, c'est vraiment une sorte d'aboutissement, parce que c'est une catharsis des USA de l'époque, en fait, hein, qui représente à l'écran, et c'est une sorte d'aboutissement, mais en même temps, il se tape contre le mur de la réalité. C'est-à-dire, jusqu'ici, il faisait ses petits films avec ses potes, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, parce que c'est un cinéma qui divise, celui de Rob Zombie, et puis là, il se heurte à ce qu'est un studio. Et là, il s'aperçoit que malgré tout ce qu'on lui a promis, le directeur Scott et compagnie, en fait, il ne l'a pas. Et que ce qu'il fait, ça fait peur aux mecs des studios. Et que du coup, bah, en fin de compte, le film va sortir dans une version tronquée. Et là, grâce à ESC, on peut enfin le voir dans sa vraie version. Ce qui fait que c'est un film qui est à mi-chemin entre le film de tueur en série et le slasher. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Damien.
T'as oublié un mot, t'as oublié infect devant Weinstein, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que Rob Zombie derrière se retrouve avec le fait de devoir faire, bah, notamment un director's cut, même si c'est pas la seule chose qu'on peut leur reprocher, mais surtout lui est reproché. Ce qui est intéressant par rapport, et c'est malheureusement pour, c'est malheureux pour Rob Zombie, c'est qu'il va forcément être comparé avec l'original de Carpenter. Et c'est aussi là où, pour certains, le film trouve des inégalités. Pour moi, il est très intéressant parce que ça va lancer une toute nouvelle chronologie chez Halloween. On est vraiment au tout début du moment où on fait des remakes de saga, c'est-à-dire que juste avant, le seul qui a dû y avoir au début des années 2000, c'est Massacre à la tronçonneuse, et les deux possèdent un point commun, c'est l'énergie. Alors, celui de Rob Zombie, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver au cœur même de ce montage, c'est-à-dire que, comme tous les films qu'il a fait avant, c'est un film qui va avoir une énergie folle, qui va vraiment se dégager du film. Et là, l'avantage, c'est que son montage dynamique permet de donner énormément de morts, c'est ce qui nous donne la deuxième partie qui fait énormément slasher. Et vu qu'il fait énormément de morts, il fait des morts rapides. Mais c'est pas parce qu'il fait des morts rapides que ça les rend moins violents, moins gore, parce que c'est quelque chose sur lequel il va continuer à appuyer, mais ça, tu en as déjà parlé, Jérôme. Il y a un truc qui est assez cool, c'est en fait quand on regarde le casting qui est pas mal intéressant. Rob Zombie à la réalisation. S'il y a Rob Zombie, qui est-ce qu'il y a en plus ? Il y a Sherry Moon Zombie, parce qu'il a Cass forcément, qui joue la maman Myers, désespérée par son fils. On a Scoot Tyler Compton qui joue Laurie Strode. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des Halloween, c'est seulement la deuxième actrice à la jouer, c'est-à-dire qu'elle fait de son mieux pour être l'équivalent de la Scream Queen Jamie Lee Curtis. Bon, elle crie beaucoup, mais elle n'aura pas du tout la même carrière. On a Malcolm McDowell qui joue le Dr. Loomis, cette fois qui est le troisième du nom, et surtout, on ne l'évoque jamais parce que ce n'est pas un nom qui va parler à beaucoup, c'est Tyler Mann qui joue Michael Myers. Alors, il n'a pas fait grand-chose, il a fait Dansab dans les X-Men, il a fait Ajax, la Vacime dans 3, mais surtout, là où il marche beaucoup en Halloween, c'est que c'est un acteur qui fait plus de 2 mètres et c'est un acteur qui fait plus de 130 kilos. Donc, on a affaire à un Michael Myers qui est véritablement massif. Il y a aussi Danny Trejo qui passe une tête. Mais voilà, il ne nous intéressera pas plus que ça. Il est là en technicien de surface, moitié membre du personnel, mais il est présent assez vite et il est là pour justifier un truc sur lequel le docteur Loomis répète, c'est qu'il dit Michael Myers, c'est une figure du mal, mais on est différent de celle de Carpenter parce que justement, il lui a donné une origin story. Il l'a mis dans une famille de cinglés où ils sont tous insupportables les uns que les autres, qui va le pousser à faire ce crime. Alors, tous insupportables, sauf peut-être le bébé, parce que le bébé, il pleure, mais il pleure que quand on crie. C'est la première fois qu'on voit un enfant qui est, enfin, un bébé en bas âge qui n'est pas insupportable quand il pleure, quand on voit le reste de la famille en entier. Mais du coup, on va avoir une figure puissante, maléfique, qui vraiment ne dégage aucune émotion, et Danny Trejo est justement là pour montrer qu'il n'y a aucune émotion. Et comme j'ai dit, le montage va assez vite, c'est-à-dire que le film, il fait, avec la director's cut, 2 heures, voire un peu plus. Et vu que le montage va très vite, en fait, on n'est jamais véritablement sorti de on ne sort jamais vraiment de cette Halloween, qui est un véritable cauchemar, mais un cauchemar où on sprint à l'intérieur, ce qui est assez drôle, parce que Myers étant un personnage qui passe son temps à marcher, finalement, la mort finit toujours par nous rattraper.
Et une mort lente et douloureuse, parce que quand même, les morts, on applique la doxa hitchcockienne, hein, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas facilement chez Rob Zombie. C'est un film très dur, très représentatif pour moi de ce qu'a pu être le cinéma d'horreur américain brutal, sauvage. Des années 2000, qu'on va retrouver un peu ce côté sauvage dans un film dont on va parler dans la toute dernière partie de l'émission. Donc, le director's cut d'Halloween, il n'y a pas que le director's cut, il y a le montage original, je vous ai dit, c'est plein de bonus, tellement que je ne peux pas tous vous les citer, mais il y a un making-of qui est passionnant parce que c'est un peu l'équivalent du making-of du Pacte des Loups qu'il y avait dans le collector du Pacte des Loups. On voit que le tournage n'a pas été une partie de rigolade. Ce n'est pas un making-of du genre amazing. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas marré. Quoi. Voilà.
Ouais, c'est un super réalisateur. On a passé un super moment.
Voilà, c'est pas ça.
Et avec mes collègues acteurs, on s'est vraiment bien amusé.
là, ça ne se fend pas trop la gueule. Là, voilà. Non, c'est vraiment une très, très belle édition. À la hauteur du film, qui est un peu, qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier Rob Zombie, qui a eu une carrière...
très rapide en fait, en fin de compte, hein, en termes d'œuvres de qualité. Il a signé 4-5 films assez marquants, mais ça a été très vite. Et puis il a disparu. Enfin, il fait toujours des choses, mais qui sont plus très intéressantes. Faut dire ce qui est. On a l'impression qu'un peu il s'auto-caricature, malheureusement, quoi. Et bah voilà, pour vous souvenir de ce qu'était un cinéaste sauvage. Voilà, revoyez le Halloween de Rob Zombie, disponible chez ESC Éditions. Écoutez Culture Prouille. Plus près de nous, en 2024, est sorti un film qui, ni plus ni moins, ce film canadien, est un film qui est une petite révolution, on peut le dire. Les mots sont peut-être un peu forts, mais en tout cas, quand même esthétiquement, une petite révolution dans le monde du slasher. C'est ESC Édition qui nous sort ce film, qui est vraiment du lourd. Un film signé Chris Nash, un premier long. C'est impressionnant de maîtrise. Qui s'appelle In a Violent Nature. Alors, bon, l'histoire ne peut pas faire plus simple. Hein. C'est un monstrueux tueur lâché dans la nature, dans la forêt. Alors, je ne vous dis pas ce qui le motive, tout ça, parce qu'en plus, c'est un jeu de dupes au début du film. On croit un truc, après on en croit un autre, après voilà. Mais c'est un film qui fait le pari, alors qu'il a eu le Grand Prix 2025 au Festival International du Film Fantastique de Gérard Armé, qui fait le pari. Alors pourquoi je vous parlais d'une révolution dans le terme du slasher ? Il fait le pari d'être un film vraiment à la première personne, mais quasiment tout du long. J'aurais bien aimé, moi, que ce soit tout du long, comme le Schizophrénia de Gérald Kargle. Il ne tient pas son truc jusqu'au bout. Mais malgré tout, c'est un film qui va vous impressionner. Je pense que Thomas, toi, ça t'a vraiment impressionné, parce que c'est un film qui vraiment renouvelle le slasher. On ne s'attendait pas à ça avant de mettre la galette dans la platine.
Et oui, parce que tandis qu'il y a des médecins qui tordent le cou au serment d'Hippocrate et à celui de leurs patients, il y a l'ouvrier qui recycle des outils de cuisine et de jardinage pour exécuter de pauvres adolescents. Il y a le blagueur qui s'insinue dans vos rêves, il les transforme en cauchemar et qui fait toujours des mises à mort plus ou moins inventives. Il y a le bourrin, peu subtil dans sa façon de trancher dans le vif, plutôt jardinier. Et dans In a Violent Nature de Chris Nash, le tueur, lui, arrive à concilier brutalité, efficacité avec un certain raffinement quand même. Bon, moi j'adore, hein. Effectivement, c'est un film qui est très original dans sa mise en scène, une mise en scène plutôt naturaliste, et là on est quasiment à 90%, 95% du point de vue du tueur. Il n'y a pas de musique, c'est filmé en 4 tiers, et on suit le tueur marcher dans la forêt. Voilà, c'est... en gros, ça commence un peu comme ça. Et le début est très étrange, hein, de la façon dont il filme, parce que on entend un groupe de jeunes qui font une chose particulière qui va motiver le tueur à sortir de sa tombe et à vouloir récupérer quelque chose. Et on ne les voit pas. On les entend, mais on ne les voit pas. C'est très étrange. Et après, on suit ce tueur. Et on voit pas, au début, on ne voit pas ses victimes, quoi. il commence par tuer un gars qui braconne, qui habite dans le coin, etc. On le voit pas, puis il joue la carte du hors-champ plutôt. On se dit, ouais, c'est plutôt pas mal, jouer à la carte du hors-champ, bon, ça dure pas longtemps. Hein. Parce qu'après, ça commence à défourailler sévère. Effectivement, il y a un moment où il change de point de vue, on est du point de vue du groupe de jeunes. Enfin, on découvre ces jeunes qui sont pas très intéressants, en fait. Hein. C'est quand même un peu l'anti-Vendredi 13, hein, par ce point de vue de mise en scène là, qui adopte le point de vue du tueur. Donc, pas de musique, pas d'effet spectaculaire, oui.
C'est de l'anti-Vendredi 13, mais comme dans Vendredi 13, tu l'as dit, les jeunes ne sont pas super intéressants non plus. Quoi. Voilà. C'est juste qu'il y a une scène de... Effectivement, moi, je croyais qu'il allait tenir le truc tout du long, hein, d'être en vision subjective. En plus, il le reprend après. Parce qu'au début, le film est quasi hypnotique. Hein, et puis après, arrive cette scène autour d'un feu de bois, qui est un peu la scène conventionnelle. Après, c'est très bien fait, puisque ça permet de comprendre... ça définit tous les enjeux du film en quelques dialogues. Mais néanmoins... Surtout que néanmoins, ça casse un peu le truc. D'autant plus qu'à un autre moment, il y aura une autre scène de révélation par des dialogues de la nature même du personnage du tueur qui reprendra cette idée de mise en scène à la première personne. Alors, après, c'est un menu défaut parce que c'est vrai, Thomas, c'est que le film a vraiment propose une vision du slasher comme on en a peut-être rarement, voire jamais vu.
Oui, mais cette scène où il y a justement une rupture de ton, une rupture de point de vue, c'est la scène un peu obligée qui raconte un peu la malédiction, quoi, l'origine de la malédiction, le pourquoi du comment, etc. Ces jeunes qui sont incrédules, qui s'amusent, qui boivent de la bière, qui fument des pétards. Mais pour moi, la grosse différence du film, quand je dis c'est un anti de Vendredi 13, c'est évidemment au niveau de la mise en scène. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet spectaculaire. C'est vraiment filmé crûment. Et même, il va tellement loin parfois dans les sévices que moi, je rigole. Il y a des moments où je me marre, notamment avec un truc pour couper des bûches, pour fendre des bûches. Là, moi, je rigole, j'en peux plus. Mais ce que je vois dans ce film... Je trouve que c'est un film qui est très actuel parce que c'est pas qu'un simple slasher qui montre que des sévices, du gore, du sang, etc. Pour moi, j'y vois clairement un propos écolo. Pour moi, ce sont des jeunes qui respectent pas leur environnement. Et pour moi, ce film, il montre que la nature, elle est plus forte que nous, quoi. Quelque part, la nature sera toujours plus forte que nous, quoi qu'on fasse.
D'ailleurs, le tueur et le réalisateur, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, si c'est le propos du réalisateur, règle ses comptes avec une génération, on va dire, très, très branchée en ligne, qui va avoir un discours de façade, mais qui, dans la vraie vie, va souiller la nature, à travers le fameux meurtre yoga.
C'est vraiment un meurtre qui, en fait, est un excellent exemple de tout le film, parce qu'on va avoir la scène qui arrive, qui est violente, auquel on prend son temps, parce que c'est un film naturaliste qui laisse son temps aux choses. Donc, on a un meurtre sanglant, qui prend son temps, qui se termine par un plan large, justement un plan paysage, où on voit juste ce qui reste d'une certaine personne dévalée durant plusieurs secondes une colline avant d'arriver dans l'eau. Et en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on peut parler d'un film où on met la nature en avant, c'est qu'en laissant des plans longs avec long et large, ça permet de donner à la nature qui entoure notre tueur un souffle, parce que notre tueur, il avance, il est mythique, donc il ne dit rien, mais l'environnement autour de lui, il évolue. Et c'est quelque chose qui est intéressant, parce que autant les personnages, ils sont en soi assez vides, autant bah, tout ce qui est dit de la nature autour est intéressant, jusqu'au dernier quart d'heure où on a une nouvelle explication qui est rajoutée. La narration, elle fonctionne beaucoup par oui-dire. C'est-à-dire que nous, on suit le tueur, il ne parle pas, donc tout ce qu'on entend, ça fait sens. On l'a dans l'une des premières scènes où justement on a cette personne qui piège un peu la forêt pour les animaux et pour éviter que les gens viennent sur son territoire, qui explique au départ qu'on entend qu'il y a des pièges, et ça on le voit juste après où il essaye de s'enfuir, il est pris par l'un des pièges, et on comprend qu'une partie des choses qu'on entend peut être la vérité. La scène du bûcher, elle est en effet intéressante parce que le réalisateur, il triche, mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait plus bouger sa caméra que d'habitude, c'est-à-dire que là on a une scène beaucoup plus montée qui tourne, mais qui laisse quand même un espace au personnage pour qu'on puisse voir constamment la forêt derrière eux et rappeler que la menace est toujours présente et qu'elle peut se trouver n'importe où. Et tout ce qui est raconté autour du feu, ça reste du oui-dire, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui se racontent une histoire d'horreur, et quand les jeunes se racontent des histoires, il y a des parts de vrai, il y a souvent des parts de faux, pas pour les jeunes, pour les plus grands également, mais c'est intéressant parce qu'il faut que le film évolue pour qu'on ait vraiment la fin même de l'histoire. Dans l'idée où on a besoin de rencontrer d'autres personnages qui, eux, connaissent l'histoire pour avoir le véritable fond. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que quand notre tueur arrive, on ne le voit pas. Et en fait, on s'attend à ne pas le voir durant tout le film, sauf qu'il y a un moment où on va le voir, le moment où il va trouver son déguisement qui est vraiment... visuellement, il fonctionne. On a l'origine du costume, notamment lié au Widir, qui fonctionne encore mieux. Et il y a une scène, par contre, où il retire son masque et on a enfin le visage du tueur et on arrive à nouveau identifier le tueur par rapport à ce qui a été entendu. Et c'est assez fun parce qu'on a pas mal de Widir et plus le film avance, plus on arrive à cocher ce qui est sans doute vrai et éliminer ce qui est faux. Mais surtout, les plans et les morts, on en a parlé, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une autre mort que moi j'aime beaucoup où la caméra va en contre-plongée limite horizontale pour qu'on suit le personnage du haut un peu comme un jeu vidéo très particulier où on suit une mise à mort où justement cette mise à mort repose sur... faire tomber quelque chose sur quelqu'un qui arrive justement à l'horizontale et la caméra est toujours bien placée.
On ne pouvait pas terminer cette évocation du film de Chris Nash, In a Violent Nature, disponible chez ESC Éditions, sans te demander ton avis, Johan, car je crois que tout comme nous, tu es assez enthousiaste sur ce slasher, pour ma foi, plutôt singulier, original.
Dès le début, on est, moi j'ai été bluffé, ni plus ni moins. Alors, surtout par cette manière de filmer avec ces longs plans séquences assez incroyables. Ça m'a rappelé une série que Jérôme aime bien, L'Effondrement, qui a tout autre sujet. Mais là, ces plans séquences et ce tueur mutique, bon évidemment mutique, mais ça c'est... c'est classique, avec cette marche inéluctable vers la tuerie, en fait. Et ça, on ne comprend pas au départ pourquoi. Il y a le médaillon qui vole, mais ça, on ne comprend pas quelle importance ça, quel lien ça a avec ce tueur qui sort et puis qui va se diriger vers un groupe de jeunes et puis qui va les tuer un par un. Donc là, c'est très, très classique. Et ce que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est un slasher pur et dur, hein, bon, c'est déjà filmé dans une forêt, dans la forêt canadienne, et donc il y a quelque chose, il y a une communion avec la nature qu'a cette créature. Et par exemple, lorsqu'il regarde dans les premières scènes le piège là, avec lequel un braconnier tue des animaux, enfin chasse des animaux, puis en plus il laisse pourrir attaché au fer, etc. Il y a quelque chose, alors au départ, voilà, ça donne une piste, la piste elle n'est pas suivie, on pense qu'il y a des motifs de vengeance autres, mais après on découvre pourquoi, je ne le dirai pas. Mais ce côté communion avec les de la forêt, puis il ne tue qu'avec des choses de la forêt, ça je trouvais ça extraordinaire, avec des outils de bûcherons, parfois d'ailleurs très étranges, sans vouloir spoiler. Et puis la fin est très positive en fait, elle est très bien faite avec cette femme qui échappe au tueur et puis qui monte dans une voiture. Après je ne dirai pas, pour pas gâcher l'effet de surprise, mais je trouve que c'est très très réussi, c'est une fin très positive, ce qui est assez rare d'ailleurs dans les slashers. En tout cas, c'est vraiment un film que je vous invite à regarder, parce que c'est un très très bon film.
Ça s'appelle donc In a Violent Nature. C'est une, quand même, on peut dire, une petite révolution dans le monde du slasher. C'est signé Chris Nash et c'est disponible chez ESC Éditions. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. It's another